Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour vous faire partager un bonheur de lecture. Et ce soir, nous allons redécouvrir une page ou des pages du Moyen-Âge, sa magie, à travers les héros hauts en couleur du roman de notre invité. Roman dont l'action se situe au 12e, 13e siècle, et nous allons cheminer aux côtés de deux compères, Trouvères et Troubadour, enfin on dira plutôt Trouvères en ce qui les concerne. Nous allons partager leur art qui divertissait les grands seigneurs et amusait le petit peuple des cités médiévales. Un entretien qui nous permettra aussi d'évoquer l'ordre des Templiers. Mais nous aurons également le plaisir de parler du culte des Vierges Noires, qui sont donc ces mystérieuses Vierges Noires auxquelles, durant plus de deux siècles, nos ancêtres du Moyen-Âge ont voué un culte fervent. Alors, tels les jacquaires, nous aurons besoin ce soir de prendre notre bâton de pèlerin pour suivre notre invité, un invité passionné d'écriture, de sculpture médiévale bourguignonne et féru d'art roman. Bonsoir Ignacio Catalan.
Bonsoir.
Je suis très content de vous accueillir pour évoquer avec vous votre dernier roman qui a pour titre « Dans la lumière d'Isiatis », roman disponible aux éditions de l'Armançon. Alors, comment dois-je vous présenter, Ignacio Catalan, comme un bourguignon en dépit d'un patronyme qui sonne pas comme très bourguignon?
Ben écoutez, je suis né à Arnay-le-Duc en Côte d'Or, donc si c'est pas la Bourgogne, je veux bien que vous me qualifiez de catalan ou de basque, ce qui doit être dans mes origines, mais moi je me considère comme bourguignon à 100%.
Un adoptif d'Arnay-le-Duc et du Morvan.
Ben, pas même adoptif, puisque j'y suis né, que j'ai vécu ensuite à Beaune, à Nuit-Saint-Georges, à Dijon, donc non, je me sens bourguignon à 100%.
Bien. Une longue carrière parisienne, tout de même, dans l'univers de la banque.
Notamment parisienne, mais notamment j'ai beaucoup voyagé.
Et puis, finalement, vous arrivez à l'écriture vers l'âge de 60 ans, c'est là où enfin vous pouvez rédiger autre chose que des études sérieuses, des analyses ou des commentaires de statistiques. Là, enfin, Ignacio Catalan s'offre la liberté de créer, d'inventer, tout en restant extraordinairement attaché au Moyen-Âge bourguignon, à l'art roman, la sculpture, parce que, certes, il y a une autobiographie qui est auto-éditée, il y a presque 10 ans, hein, c'est donc Luna Lunera, et puis arrive, en 2004, là, j'allais dire, un roman qui ouvre une trilogie, sur la sculpture bourguignonne, sur les pierres, c'est justement le Chant des Pierres. Ça, c'est en 2004, chez votre éditeur, les éditions de l'Armançon. Mais vous êtes aussi, à côté de ces romans médiévaux, vous aimez aussi les textes courts, hein. Il y a des nouvelles, notamment les contes de la jument Lina, qui sont des histoires un petit peu du pays d'Arnay et d'ailleurs, hein.
Et puis, surtout Darnay, quand même.
Alors, toujours en recueil de nouvelles, ben c'est le dernier livre avant donc celui dont on va parler ce soir, c'est Les Petits Métiers Bien Tranquilles, en 2011, toujours à l'Armançon, où là, vous nous conviez à redécouvrir des vieux métiers au pays d'Arnay et en Morvan, comme le charbonnier, le sabotier, il y a même un pêcheur de carpes et un charcutier. Et puis, il y a donc ces romans du Moyen-Âge. Alors, ce qui caractérise une grande partie de votre production romanesque, Ignacio Catalan, c'est une trilogie de romans essentiellement consacrée, je dirais presque à l'admiration que vous avouez pour la sculpture, l'art roman bourguignon. Alors, Le Chant des Pierres, qui obtient en 2007 le prix du Lions Club International, on mentionnera Les Chemins de Pierre, la Bourgogne du XIIe siècle, avec le parcours artistique du sculpteur Gautier. Et puis, il y a Les Trois Vies de Claude Sluter. Là, c'est un roman qui rend une fois de plus hommage à un génie de la sculpture flamande à la cour de Philippe le Hardi. On mentionnera aussi Les Tailleurs d'Espérance, Là, vous avez reçu le prix littéraire du Morvan Henri Perruchot en 2008. Et puis ce soir, nous allons rentrer avec vous, Ignacio Catalan, dans la lumière d'Isiatis. Alors, dans la lumière d'Isiatis, on se retrouve au Moyen-Âge, une période historique qui vous est particulièrement chère, et nous cheminons aux côtés, déjà, d'un personnage principal qui s'appelle Aubert de la Halle et qui est un trouvère et qui appartient aussi à l'ordre des Templiers. Alors, encore et toujours le Moyen-Âge, Ignacio Catalan.
Oui, effectivement, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est toujours le Moyen-Âge, mais c'est dans la continuité des autres livres, à savoir que, bon, vous les avez cités, mais ils étaient dédiés à la sculpture romane bourguignonne, enfin, médiévale bourguignonne, pardon. Ce quatrième ne parle plus de sculpture. J'avais écrit 3 livres sur la sculpture médiévale. Je crois que j'avais fait, comme vous avez dit, une trilogie, mais j'avais fait le tour. Donc je voulais m'intéresser à un autre type de culture, qui est la poésie du Moyen-Âge, puisque les premiers trouvères, les troubadours d'abord, soyons chronologiques, les troubadours puis les trouvères, sont nos premiers poètes, en fait. D'abord des aristocrates, dont les noms sont restés, Bernard de Ventadour, Thibaut de Champagne, Marie de France, enfin, Bertrand de Born. Donc leurs écrits sont restés parce qu'il s'agissait d'aristocrates qui étaient en même temps souvent des guerriers. Il faut voir les personnages du Moyen-Âge. Et puis petit à petit, vu à suite du succès de cette poésie épique ou chevaleresque, disons, eh bien... La forme s'est étendue vers le peuple, et ce sont ensuite des trouvères, des jongleurs, comme on les appelait à l'origine, des gens du peuple qui ont pris le relais et qui ont adressé, sans être péjoratif, au petit peuple, eh bien, cette poésie ou cette musique qui était réservée à une élite qui était l'élite aristocratique de l'époque, l'aristocratie féodale, pardon.
En fait, il y a une évolution aussi des goûts, vraisemblablement même des seigneurs et des puissants, puisque en fait il y a eu l'épopée ou la geste, on racontait les exploits, la chanson de Roland par exemple, bon, une des plus célèbres, il y en a d'autres, mais moins connues en tout cas scolairement ou universitairement parlant. Et puis il y a tout d'un coup une civilisation de cours, les cours deviennent beaucoup plus raffinés, à la fois dans le mode de vie, dans l'habillement, dans les pratiques, et finalement, les trouvères vont trouver leur place au sein d'une aristocratie qui effectivement développe un Moyen-Âge brillant, qui est loin du Moyen-Âge ténébreux, peu glorieux, ou affreux ou infernal, des pestes, des épidémies, des guerres, des massacres. Là, on est au cœur, avec ces trouvères, des cours... élégante, où se développe ce qu'on appelle la fine amour, c'est-à-dire l'amour courtois.
Je vais vous reprendre un peu sur ce que vous avez dit avant, parce que c'est ce qui a fait naître mon intérêt pour le Moyen-Âge et mon écriture sur le sujet, à savoir cette idée qu'on se fait moins aujourd'hui, grâce à des gens comme Duby ou le roi d'Aduri, on a une autre vision du Moyen-Âge. Mais jusqu'à un passé relativement récent, c'était une période dite obscurantiste, sombre, sans aucune qualité, ni artistique, ni culturelle, ni autre. C'est comme ça qu'on nous l'a décrite. Moi, quand j'allais à l'école, c'est comme ça qu'on me décrivait le Moyen-Âge. Or, on peut s'apercevoir que ce n'est rien de tout ça, parce que l'architecture du Moyen-Âge est une architecture formidable. Je ne vais pas citer les cathédrales, mais passons dessus. La sculpture elle-même est phénoménale. Et justement, cette poésie qui naît dès le 10e, 11e siècle prouve qu'il y avait une civilisation bien précise. Parce que, si je peux faire un peu d'histoire, mais très rapidement, on a toujours dit qu'il y a une civilisation romaine, puis gallo-romaine, qui se termine dans les années, dans le 4e, 5e, 6e siècle. Et puis ensuite, pour retrouver une autre civilisation digne de ce nom, on passe à la Renaissance.
16e siècle.
Le 16e siècle, la Renaissance humaniste, etc. Et c'est comme s'il y avait eu le trou noir entre les deux. Alors que moi, je suis persuadé, comme beaucoup de gens, qu'il y a une civilisation propre au Moyen-Âge. Il y a autant ou sinon plus de spiritualité au Moyen-Âge que dans la période antérieure ou la période postérieure. Un sculpteur comme Schlüter, moi je dis que c'est le premier sculpteur humaniste, alors qu'il n'est pas de la Renaissance, voyez-vous. Donc je suis persuadé qu'il existe une civilisation du Moyen-Âge. Donc il faut pas dire ce Moyen-Âge noir. Bon, effectivement, il était noir, mais vous savez... Et puis que les gens étaient violents et tout. Mais croyez-vous pas qu'on est plus violent aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 siècles ou 10 siècles ?
Alors c'est vrai qu'en anglais, Moyen-Âge se dit Dark Ages, c'est-à-dire les périodes obscures. Et votre roman d'ailleurs porte bien son titre, Dans la lumière d'Isiatis. Oui. Donc vous apportez une clarté de ce Moyen-Âge. On va d'ailleurs, si vous le voulez bien, Ignacio Catalan, on va se mettre un tout petit peu dans l'ambiance médiévale. Avec un titre que nous allons écouter, qui est extrait d'un album intitulé « Le mystère médiéval, la musique au temps de Notre-Dame ». Il s'agit d'une sonnerie de Noël. Alors, place à la magie et à l'émerveillement. Et on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Ignacio Catalan pour son roman « Dans la lumière d'Isiatis ». Je vous rappelle que vous êtes sur la fréquence de Radion et vous écoutez Wagon Livre. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Ignacio Catalan. Nous sommes dans la lumière d'Isiatis. Alors, revenons un peu à ces trouvères avec vous. Ces trouvères, vous avez dit, développent un art extrêmement raffiné, une poésie lyrique qui, effectivement, est surtout destinée à l'aristocratie des châteaux ou des palais. Parfois, ils exécutent, c'est le cas notamment de votre personnage principal, Aubert de la Halle. Il exécute aussi des tours de magie, puisqu'il est question de colombes et de petites souris qu'il a dans des cages. Et alors, il y a, vous faites l'inventaire des instruments dont les trouvères sont capables de jouer. Alors, il y a la harpe, il y a la vielle à archet, et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu d'instruments qui... aujourd'hui n'existe peut-être plus que dans les musées, peut-être le musée de Cluny à Paris. Je pense à la citole,
certain, oui.
Ou à la chalémie. Alors oui. Qu'est-ce que la citole ?
La citole, c'est un instrument à cordes pincées ou qu'on peut jouer avec un archet. Mais c'était surtout un instrument à cordes pincées. Bon, on peut pas parler de la guitare parce que c'est plutôt une espèce de viol, oui, de violon en quelque sorte, mais très 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 rudimentaire à l'origine, quoi. La chalémie, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre du hautbois. Hein. La harpe, vous l'avez dit, mais il y a beaucoup d'autres instruments qui ont disparu. Effectivement, le rebec, hein, qui est une espèce de guitare, le rebec, c'est le psaltérion qu'on voit encore dans les sculptures sur les chapiteaux ou autres, on retrouve ces espèces de grandes, immenses harpes là, etc. Il y a énormément d'instruments qui ont disparu ou qui, se perfectionnant, sont devenus les instruments qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, les instruments accompagnent aussi les récitations, parce que c'est un art quand même oral, il faut bien le dire,
complètement
oral, d'où le fait qu'un certain nombre de textes n'ont pas toujours été retranscrits, ou en tout cas ont été... peut-être parfois mis sur le papier avec sans doute des infidélités aux textes originaux. Alors, en fin de compte, ces trouvères récitent par cœur des milliers et des milliers de vers accompagnés donc de leurs instruments, ce qui c'est époustouflant.
Ah oui, là c'est vrai. Donc effectivement, il faut pas oublier que ces gens-là parlent en langue vulgaire. ce qu'on appelle aujourd'hui la langue vulgaire, c'est-à-dire l'occitan d'abord, et puis la langue romane, quoi, donc qui est un français assez primitif. Donc, d'un auteur à l'autre, la syntaxe, la grammaire, tout ça va changer, parce qu'il n'y a aucune règle établie. Hein. Même le vocabulaire lui-même change. Donc, on ne peut pas parler de règles bien définies. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'une poésie très raffinée, mais ça peut être aussi une poésie très fruste. Hein. Et bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les trouvères, dans leur pérégrination, pour gagner leur vie, bien sûr, en exposant leur talent, n'hésitaient pas à composer leurs propres... Ils chantaient les chansons d'autrui, mais ils composaient leurs propres chansons, souvent sous des mélodies qu'ils avaient entendues chez un confrère. Vous savez, on copiait sans aucune vergogne, et sans problème, d'ailleurs, les musiques... quand elles étaient plaisantes et qu'elles étaient connues par le peuple, on n'hésitait pas à mettre ses propres paroles sur la musique d'un autre.
Donc votre dernier roman s'intitule « Dans la lumière d'Isiatis ». Pour placer le décor, donc nous sommes en plein Moyen-Âge, 12e siècle, Aubert de la Halle, donc, qui est le trouvère qui apparaît au tout début du roman, qui passe par Arnay, et qui là, il découvre un jeune garçon d'une quinzaine d'années qui finalement va être un peu comme les foules, séduit par l'art de Aubert de la Halle, et ce jeune garçon de 15 ans va finalement abandonner, avec l'accord de ses parents, il va abandonner son père et la forge à laquelle il était un peu tenu pour partir sur les chemins et faire son éducation. Parce que finalement, c'est un peu votre roman, un roman d'apprentissage, un roman d'éducation. C'est le parcours d'un jeune homme qui va intégrer l'univers des trouvères.
Tout à fait. Donc, c'est pas un peu un travail d'initiation de la part d'Aubert vis-à-vis de ce jeune garçon dont il a décelé le talent inné, mais il va absolument assurer complètement sa formation de trouvère, parce qu'il a senti le talent fruste à l'état brut, et qu'il va faire apparaître petit à petit. Au fil de leur pérégrination, effectivement, le garçon va devenir lui-même un poète de talent.
Alors ce jeune garçon donc se prénomme Loïs, et il part sur les chemins aux côtés de son maître, Aubert de la Halle, et effectivement, c'est le début d'une aventure spirituelle, artistique, et évidemment, c'est à 15 ans, c'est l'adolescence, c'est aussi la découverte, peut-être j'allais dire aussi un peu du péché de chair, en tout cas du désir. Alors, il y a, aux côtés d'Aubert de la Halle, Aubert de la Halle va l'initier à ce qu'il appelle la connaissance. La connaissance avec un C majuscule. Et cet Aubert de la Halle s'avère être un membre d'un ordre assez puissant, à un moment dans le royaume de France, c'est l'ordre des Templiers. Est-ce que je peux vous demander de présenter un peu cet ordre des Templiers ?
Ben, les 11e, 12e et 13e siècles c'est une époque qui est dominée par les ordres monastiques. Quand je dis dominée, c'est une domination du savoir, une domination culturelle, une domination
économique
qui deviendra économique, oui, et quelque part scientifique aussi. D'ailleurs, tout le savoir est dans les monastères, effectivement. Et les Templiers, alors sont des, il y a bien sûr les Bénédictins, les Cisterciens que tout le monde connaît, les Templiers que tout le monde connaît aussi, mais qui sont ce qu'on appelle des moines soldats. Ils sont moines avant d'être soldats, on ne sait pas toujours. Et ce troisième ordre a été fondé et formé par son passage sur la Terre Sainte.
L'influence des croisades, incontestable.
Et là, il y a bien sûr l'influence des croisades. Et après avoir été longtemps exclusivement en Terre Sainte, il revient dans ce qu'on pourrait appeler la France de l'époque. Et il va connaître un développement considérable pendant deux siècles. Passons sur les histoires des trésors, des Templiers et autres, qui sont souvent anecdotiques. Mais ils ont une puissance très très grande. Et ils se considèrent un peu, vis-à-vis de la foi, comme des initiés. Par rapport à la foi du charbonnier, excusez-moi l'anachronisme, parce qu'on parlait pas de foi du charbonnier à l'époque, mais à la foi du charbonnier de l'ensemble du peuple, ils se veulent quelque part des initiés, et ils vont développer un culte très spécifique, qui va être donc lié aux Vierges Noires, et pour lequel Aubert a une mission en tant que Templier. Il n'est pas Templier dans l'ordre, il est ce qu'on appelait à l'époque des fratre coniugati, j'ai pas très bien su traduire, frère associé en fait. Il n'a pas droit au menton blanc, il porte un manteau noir, c'est un frère un peu secret, qui pourra retourner à la vie civile à la fin de sa mission s'il le souhaite, ou qui pourra rester chez les Templiers. Donc, Aubert a cette mission à remplir, et il va emmener ce gamin avec lui au départ avec l'intention d'en faire un trouvert. Et puis en même temps, il va être tenté de l'initier justement à sa recherche, à sa mission et à sa recherche de la connaissance, alors qu'il lui est strictement interdit d'en parler.
Et cette recherche de la connaissance va amener notre jeune Loïs à découvrir, parce qu'il faut imaginer ce qu'est une personne de couleur au Moyen-Âge. Il découvre de surcroît une femme d'une très grande beauté, et de surcroît, elle est noire. Hein, nigra sed formosa, voilà. En latin. C'est-à-dire, nigra noir sed mais formosa belle.
Oui.
Et alors, peut-être que l'on pourrait, en votre compagnie, Ignacio Catalan, évoquer l'origine, quand bien même on ne sait pas trop, finalement, cela reste un grand mystère, et peut-être pourriez-vous nous glisser quelques éléments concernant l'origine du culte autour de ces mystérieuses vierges noires disséminées comme ça dans différentes chapelles dans le royaume de France.
Alors, c'est ce qu'on appelle en un mot le mystère des vierges noires, que je n'ai pas résolu bien entendu dans ce livre, que personne à aujourd'hui n'a résolu, bien qu'il y ait beaucoup de théories qui soient diffusées sur ce sujet. Ces vierges noires apparaissent au Xe siècle à peu près, donc curieusement, ce sont les premières représentations de la Vierge en sculpture. Donc, ce sont des Vierges toutes dissemblables à première vue, mais qui ont énormément de points communs. La taille, elles ont environ 70 cm de haut, alors qu'elles sont sculptées par des artisans dans des pays qui ont des mesures tout à fait différentes, mais bizarrement, elles ont toutes la même mesure. La même couleur des vêtements, du rouge, du noir et de l'or, et surtout, l'enfant qui était toujours également dans le giron de la Vierge, et surtout ce visage noir et ses mains noires de la mère et de l'enfant. Et pourquoi sont-ils noirs? Alors ça, je ne vous apporterai pas la réponse, il faudrait peut-être aller chercher très loin, mais vous avez parlé des croisades tout à l'heure, et effectivement, on a découvert l'Orient avec des teints de peau différents des nôtres, et qui ont dû beaucoup surprendre à l'époque, effectivement. Alors voilà, le culte a commencé comme ça. Alors est-ce que c'est un culte ésotérique qui s'est développé? On peut le penser. On peut le penser, qui a connu une dévotion, les Vierges ont connu une dévotion extraordinaire à Notre-Dame du Puy, à Notre-Dame d'Anis au Puy, lors de l'Annonciation, la fête de l'Annonciation. Il y avait jusqu'à 200 à 300 000 personnes qui venaient se prosterner devant la Vierge le jour de l'Annonciation avec des bousculades, des morts, etc. Tellement la ferveur était énorme. Et arrivé à la fin du XIIIe, les vierges noires ne disparaissent pas. Celles qui existent, on les retrouve encore aujourd'hui, mis à part celles qui ont été détruites par 1789 et les révolutionnaires. Ensuite, il y a eu des copies qui ont été refaites, mais il existe encore pas mal d'originelles. Mais il ne se sculpte absolument plus aucune vierge noire à partir de la fin du XIIIe siècle.
On reviendra sur les Vierges Noires d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que vous êtes sur la fréquence de Radion et vous écoutez Wagon Livre ce soir en compagnie d'Ignacio Catalan pour son dernier roman intitulé « Dans la lumière d'Isiatis ». On va écouter, Ignacio Catalan, un titre initialement créé par Léo Ferrig. Vous connaissez bien ces pauvres rues de bœuf et on le redécouvre ce soir sur Radion, interprété en 1957 par une grande dame de la chanson française, Cora Boker.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, le vent, je crois, les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte les emportants. avec le temps qu'arbre des feuilles. Quand il ne reste en branche feuille qui n'aille à terre. Ma terre qui de partout me fait la guerre, autant d'hiver ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise en honte, en quelle manière. Amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés, ils ont été trop clairsemés. Le vent, je crois, les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir. Tout ce qui m'était à venir m'est à venir. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rang. Que vent emporte, et il vantait devant ma porte les emportants.
Pauvre Rudebeuf, par la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés, Cora Vauquer, disparue l'an dernier, à l'âge de 93 ans. On retrouve notre invité, l'écrivain Ignacio Catalan, pour Dans la lumière d'Isiatis, disponible chez vos libraires aux éditions de l'Armançon. Alors avant d'écouter Cora Vauquer, on parlait des Vierges Noires. Alors les Vierges Noires sont présentes en Bourgogne, il y en a quelques-unes, notamment à Beaune.
Alors, les Vierges Noires sont apparues, moi je pensais que c'était en Bourgogne d'abord, et puis les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit « déjà en Auvergne ». Alors, bon, on ne va pas polémiquer sur la question, mais elles sont déjà apparues en Auvergne et en Bourgogne, disons, pour ne pas être trop chauvin. Et il en existe toujours, bien sûr, l'une des plus connues est Notre-Dame, celle qu'on appelait Notre-Dame de l'Apport, qui est à l'église Notre-Dame de Dijon aujourd'hui, celle de Beaune, qui est également très connue et qui a été mise en valeur récemment et qui est exposée dans le cœur de Notre-Dame, et puis il y en a un peu partout dans toute la France, puisqu'en fait, elles ont suivi en général les chemins de pèlerinage. Alors, est-ce que ce sont elles qui ont suivi les chemins de pèlerinage, ou est-ce que les chemins de pèlerinage sont passés sur les lieux où il y avait des Vierges Noires ? Là, il est encore une question pour laquelle on n'a pas de réponse. Mais des Vierges Noires, il en subsiste encore beaucoup en France. Et puis, bien sûr, Notre-Dame d'Anis, que j'ai évoqué tout à l'heure, ou puis, c'est Notre-Dame de Rocamadour, dont la sculpture est assez extraordinaire, d'ailleurs.
Et justement, vous racontez l'arrivée de vos personnages, hein, Aubert et son jeune adolescent, Loïs. Ils arrivent à Rocamadour, et là, Aubert va gravir les escaliers sur les genoux. Je crois qu'il s'attache les pieds et il gravit à genoux. Je crois qu'il y a une centaine de marches.
Alors, on pense qu'à l'époque, il y en avait 210, c'est-à-dire 3 fois 70.
Donc, il y a vraiment une soumission du pèlerin devant
complètement.
Cette Vierge noire qui effectivement rassemble des milliers et des milliers de pèlerins. Il y a quelque chose de l'ordre même de l'irrationnel par rapport au culte.
Pour nous complètement, oui, c'est sûr. Pour nous complètement irrationnel. Mais bon, c'est l'époque ça. Et alors le site, pour dire un mot du site de Recamadour, c'est un site extraordinaire aussi à l'époque, parce qu'il y a effectivement la chapelle de la Vierge, mais il y a des multitudes d'autres chapelles, d'autres saints qui sont là pour honorer la chapelle de la Vierge Noire. C'est assez extraordinaire. Et alors, si vous connaissez cette énorme falaise de Recamadour, elle est construite du pied du village en bas jusqu'au sommet. C'est assez extraordinaire. C'est un lieu de dévotion extraordinaire qui le reste encore aujourd'hui, je crois d'ailleurs.
Ce qui est formidable avec votre roman, c'est que vous nous rappelez une époque où le doute par rapport à la croyance en Dieu, à la Vierge Marie et aux saints n'est pas possible. C'est ça aussi, c'est que vraiment on est complètement immergé dans une société qui n'a plus rien à voir, bien évidemment, avec la nôtre. Et ça fait du bien aussi, ce souffle médiéval qui quand même nous rappelle que l'on vient de là, que la société française, les restants d'abbayes, de monastères, de chapelles, sont des survivances, des vestiges d'une époque, bon, brillante ou moins brillante. C'est vrai que votre roman montre plutôt les aspects brillants. Encore que, il y a le mal noir. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Concernant la Vierge Noire, Ignacio Catalan, il y a bien sûr les Vierges Noires qui se trouvent tout au long du parcours, et notamment donc du pèlerinage que nos deux ouverts font pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, la bien nommée. Et puis il y a cette presque allégorie de la Vierge Noire, cette jeune femme magnifique qui va séduire notre jeune garçon de 15 ans, Loïs, qui n'a jamais connu que la vie rustique d'Arnay et qui tout d'un coup découvre une femme exotique. Et Dieu sait si la beauté noire plus tard va être célébrée. Je pense à Baudelaire, je pense aux poètes du 19e siècle. Mais cette femme reste quand même une femme, j'allais dire presque dangereuse, parce qu'elle peut perdre un homme. Ermengarde, la femme noire, elle va quand même obliger notre jeune Loïs à passer devant un tribunal.
Voilà. Oui. Vous avez dit qu'elle le séduit, elle ne cherche absolument pas à le séduire, parce qu'elle est très consciente de son rôle, de sa vocation.
Oui. Elle dit qu'elle n'est pas prisonnière, elle accepte sa condition d'être une sorte de vierge, surveillée en permanence par quatre gardiens.
Complètement. Et quand Loïs commence à lui avouer son amour, elle lui dit bien dès ce moment-là, oui, je suis à moitié, moins qu'à moitié femme, mais excusez-moi, j'ai oublié la citation, mais je suis qu'à moitié femme. Mon autre moitié est consacrée à Dieu et à la Vierge. Donc c'est cette moitié-là qui doit l'emporter. Donc elle le prévient qu'il ne faut pas qu'il s'attende à quoi que ce soit de sa part, aucun geste à son égard d'amour réciproque. Mais malgré tout, chacun sait que l'amour ne se gouverne pas toujours facilement.
Elle dit effectivement, je ne suis pas prisonnière, j'ai consenti, ces Templiers sont mes licteurs. Et effectivement, elle accepte, mais quel est son rôle finalement ?
C'est un peu une médiatrice, une ambassadrice, parce que bon, ce sont les Templiers qui la mettent en avant. Les Templiers n'imaginent pas de pouvoir intercéder directement auprès de la Vierge ou s'adresser directement à la Vierge. Il leur faut une intermédiaire, et le hasard, si on peut dire, le hasard de l'histoire a fait qu'ils aient découvert cette jeune fille qui vient justement d'un pays de croisade, qui a été ramenée par Josserand de Brancion, et qui était son parrain, qui était une fille d'un sultan égyptien, qui était l'ami de Josserand. Et cette jeune femme semble capitaliser en elle tout ce qu'elle ressemble physiquement aux Vierges Noires, puisqu'elle est noire et elle est vierge, elle est absolument pure, puisqu'on l'a toujours élevée dans cette conception de la pureté. Donc c'est pour eux une ambassadrice, mais surtout une ambassadrice absolument intouchable.
J'espère que vous passez une agréable soirée en compagnie de notre invité Ignacio Catalan. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, c'est Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire, comme tous les mercredis depuis novembre 2010. Ignacio, on va écouter un texte composé par Adam Delahalle, un texte qui a pour titre « Je muire, je muire ». Et cet extrait, une fois de plus, du compact disque intitulé « Le mystère médiéval, la musique au temps de Notre-Dame ». C'est donc disponible chez Sony. On écoute donc ce titre d'Adam Delahalle, « Je muire, je muire ». Nous sommes ce soir en compagnie d'Ignacio Catalan pour son roman Dans la lumière d'Isiatis. Avant de reprendre la discussion autour de ce roman, je rappelle la parution du dernier numéro Pays de Bourgogne avec un grand article consacré à Henri Vincenot. Et puis, il y a un dossier qui risque beaucoup de vous intéresser, Ignacio, parce que il s'agit de mythologie, vierge, diable, Gargantua, quelques figures de la mythologie bourguignonne. C'est un article de Patrice Vachon et il est même question des vierges noires, une histoire écrite ici. Je vous l'offre, c'est le dernier numéro de Pays de Bourgogne, le numéro d'octobre 2012. Revue qui fêtera d'ailleurs en 2013, l'année prochaine, son 60e anniversaire.
Eh bien, merci beaucoup.
Je vous en prie, Ignacio Catalan. Alors, revenons dans la lumière d'Isiatis, donc votre dernier roman, un captivant roman érudit qui nous fait traverser le royaume de France au XIIe, XIIIe siècle, aux côtés des trouvères Adam de la Halle, Aubert de la Halle, pardon, et son compère Loïs Darnay.
On aura à croiser Adam de la Halle, que nous avons entendu tout à l'heure, mais il n'est pas encore là, il n'est pas encore présent.
Je vous faisais la remarque, hors micro, combien vos romans, souvent, étaient des romans qui mettaient en scène des jeunes gens amenés à aller où, amenés à se former, à se découvrir et à cultiver un talent. Et je me disais, finalement, est-ce que en ces jeunes garçons prometteurs, talentueux, est-ce que le Ignacio Catalan, l'écrivain, renoue un peu avec son passé, sa jeunesse? Est-ce que vous auriez aimé être intellectuellement ou professionnellement plus artiste que la profession qui a été la vôtre pendant presque toute votre vie?
C'est une carrière artistique qui vous a manqué.
Je sais que vous auriez aimé être trompettiste, vous avez joué un peu de la trompette.
Oui, vaut mieux l'oublier. J'ai été trompettiste pendant 3 ou 4 ans, au service militaire d'abord, mais j'étais vraiment pas doué, donc il vaut mieux oublier. D'ailleurs, la musique est l'un de mes grands regrets, parce qu'effectivement, j'aurais aimé être musicien, mais j'ai pas su du tout. Donc, votre question est difficile. C'est sûr que mon rêve n'était pas d'être employé de banque, ni d'évoluer dans la banque, mais bon, vous savez, à 16 ans, mes parents m'ont dit qu'il faut aller travailler, je suis allé travailler, la banque c'était très bien, Et puis ça m'a permis de faire une carrière, disons, honorable. Mais c'est vrai que ma vocation n'était pas vraiment celle-là.
Est-ce que vous auriez aimé rencontrer un aubert de la Halle, justement, à 16-17 ans ?
Ah ben peut-être, oui, peut-être, peut-être. Mon père était musicien, il a essayé de me former à la musique, mais ça a moins bien réussi qu'Aubert, que Loïs avec Aubert, naturellement, mais enfin bon.
Parlons un peu du Moyen-Âge, qui domine très largement votre roman, bien évidemment. Il y est question aussi d'un Moyen-Âge païen, un peu mystérieux. Alors, évidemment, c'est une société où règne un grand nombre de symboles. Notamment, Aubert dit au jeune Loïs qu'il va lui apprendre les signes sur les chapiteaux des basiliques, les sculptures sont ésotériques, il faut les déchiffrer, finalement, il y a des codes qu'il faut acquérir à cette époque. Vous parlez, bien sûr, des symboles, et vous parlez aussi, dans votre roman Ignacio Catalan, des chiffres sacrés, et notamment du 3, chiffre 3, et du chiffre 2. Est-ce que je peux vous demander de nous en dire un peu plus sur l'animus et l'anima?
Oui, l'animus 3 et 2, enfin, les chiffres sacrés, il faudrait consacrer une ou deux ou trois émissions à ce sujet-là. Hein. Il y a eu un livre de l'abbé Griveaux sur Doutin, sur les chiffres dans l'art roman, justement, qui était très passionnant. Enfin, c'était teinté d'humour, mais enfin c'est assez passionnant. Certains chiffres sont effectivement, on ne va pas parler ici des nombres d'or, mais ça rejoint les nombres d'or. D'ailleurs, les cathédrales ont à leur base, la construction des cathédrales, à sa base, ces fameux nombres sacrés ou nombres d'or. Alors le 3 et le 2, bon, effectivement, on parle d'animus et d'anima. Animus, c'est l'homme. 3, la femme, 2, anima. Alors là, quand aujourd'hui on parle de parité, je suis pas sûr qu'on accepte trop ce choix de 3 et de 2. Mais bon, sachons que 3 plus 2, ça fait 5, donc ça fait les 5 doigts de la main, donc ça fait l'union de l'homme et de la femme. Voilà. Mais le chiffre 3 a beaucoup d'autres significations, le chiffre 7 aussi. Hein. Lisez l'Apocalypse de Saint Jean, il n'y a pas une page où le chiffre 7 n'apparaît pas. Les 7 sceaux, les 7... Ça m'échappe, les choses m'échappent, mais la symbolique du 7,
les 7 péchés capitaux,
la Pentecôte qui est 7 fois 7 semaines après, 7 fois 7 jours après Pâques, une multitude de signes comme ça qui se réfèrent à ces chiffres-là.
Alors il y a question un petit peu d'alchimie. Vous parlez bien sûr de la quête du grand œuvre pour les alchimistes. Vous parlez aussi de la table d'émeraude. Et alors, je reviens à l'aspect païen. Je pense notamment donc au magazine La Pays de Bourgogne avec son dossier sur Vincenot. On sait qu'Henri Vincenot était très attaché à la culture celtique, au druidisme. Hein, il y était particulièrement attaché. À un moment, Aubert et son compère Loïs se trouvent assis au pied d'un arbre et il lui dit que en frôlant, en touchant l'arbre, on a possibilité comme ça d'emmagasiner l'énergie de l'arbre. Ça, c'est bien sûr un clin d'œil aux forces telluriques. Un petit mot sur cette métaphore.
Alors, il faut savoir qu'on est en plein hiver, que les deux hommes sont pris par le froid, donc ils sont serrés l'un contre l'autre, contre cet arbre, et Aubert, toujours dans le cadre de sa formation de Loïs, lui explique que l'arbre, c'est en fait la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui a donné la vie à Jésus, qui avait donné la vie donc à l'humanité d'une certaine façon, et c'est la sève qui monte de l'arbre va vers la lumière, elle va donner la vie au sommet de l'arbre, et elle se renouvelle régulièrement. Et le gamin, qui lui est quand même encore très terrien, lui répond « Moi, il y a au moins une chose que je sais, c'est que la sève ne monte pas en hiver. » C'est-à-dire qu'avec une seule phrase, il démolit complètement l'argumentation d'Aubert. Quoi. Alors naturellement, Aubert s'emporte, il le traite d'homme de peu de foi, etc. Mais voilà, on revient complètement dans les symboles. Quoi.
Curieusement...
Et de l'approche un peu très différente des deux compères, de leur approche de la spiritualité et de cette recherche de la connaissance. Parce que Aubert a une progression bien cadré, bien délimité, et avec ses certitudes. Alors que Loïs, c'est l'ancien forgeron, le gamin forgeron, il lui en reste encore un peu. C'est un terrien avec son ancrage dans la terre bien ferme et son approche de la spiritualité forcément différente.
Et puis le jeune garçon, on sent qu'il peut être corrompu, justement attiré par la chair, et c'est ce que Aubert lui dit, tu ne peux finalement n'exercer tes talents ou ta séduction qu'avec les mots. Et c'est ce que le jeune Loïs a du mal à concevoir, c'est que lui aussi, il a quand même, semble-t-il, le corps qui réclame ses plaisirs, surtout à 15-16 ans.
Oui. D'ailleurs, on va le constater à un moment dans le déroulement du cheminement.
Oui, Loïs va découvrir, Loïs découvrira le sexe. Ouais. Effectivement, il y a ce passage avec des ribauds, des prostituées, qui se trouveront elles aussi. Il n'y a pas que des vierges noires sur le chemin de Loïs, il y a aussi quelques ribaudes. Ignacio Catano, je vous sais mélomane, vous avez choisi un titre qu'on va écouter. C'est quelqu'un que vous adulez, c'est Miles Davis. On écoute un titre revisité, enfin bien connu, c'est Summertime, et c'est Miles Davis. C'est un choix de notre invité qu'on retrouve dans quelques minutes.
Un trompettiste.
Oui. À tout de suite avec Ignacio Catalan. On vous laisse en compagnie de Miles Davis. Donc un choix de notre invité, l'écrivain Ignacio Catalan, qui est avec nous ce soir pour encore quelques minutes pour son dernier roman Dans la lumière d'Isiatis, paru aux éditions de l'Armançon. Avant de nous séparer, justement, Ignacio Catalan, je vais vous demander de lire un passage de votre roman. Alors, je le situe. Loïs, notre jeune garçon, a accompagné Aubert dans sa formation jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le jeune garçon renoue avec ses origines. Il est de retour à Arnay auprès des siens et il fait le récit à sa manière de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a découvert.
En préambule, je vais vous demander d'être indulgent parce que je ne suis pas trouvert, je ne suis jamais troubadour, donc vous serez indulgent avec ma diction. Merci. Il a commencé par décrire les routes sages, celles plus chaotiques, les villes, la montagne, les déserts vides de toute humanité, beaux de solitude. Puis la Via Podiensis, que d'aucuns appellent le Camino, les rencontres qu'on y fait, qui enrichissent ou désolent, les cérémonies aux chants prégnants dans les sanctuaires qui transportent l'âme, les miracles approchés sinon toujours vus. Il dit les premiers templiers, nobles et serviables, de qualité si rarement réunis, les grands savants, les ordres savants, accueillants aussi. Il ne parle ni d'Aubert, ni d'Ermengarde. Ils furent sa vie. Et qui aurait cru en l'idylle d'un saltimbanque avec une presque déesse, princesse noire, auréolée de sa foi et des mystères d'Orient. Il s'est longuement attardé sur Compostelle, les Galles de Rome et Jérusalem, sur Rocamadour, Montserrat. Mais le bruit se répand qu'il a vécu à Paris. On veut tout savoir de la cité du roi, la plus grande et belle cité du monde, au dire de ces prétentieux de Parisie. Elle est bien la plus grande et la plus belle, la plus savante aussi, avec ses écoles innombrables au cloître, Notre-Dame, au chapitre, et maintenant à l'université, cette cité hors les murs, ville de maîtres et d'écoliers, au-delà de la Seine et de l'abbaye Saint-Germain. Et la plus pieuse, rien qu'en Lille, 10 paroisses et leurs 20 églises, pressées autour de Notre-Dame, Saint-Christophe, Saint-Pierre-aux-Bœufs, Saint-Jean-le-Rond, aux marches de laquelle on dépose les nouveaux-nés laissés aux soins de Dieu. Dans un dédale de rues resserrées sur leurs maisons enchevêtrées et côtoyant les hôtels à tourelles des chanoines, l'hôtel-Dieu, la prison du chapitre, son échelle patibulaire et les malandrins exposés et comme oubliés là. Tout cela à l'ombre de l'immense vaisseau cathédral et de ses indénombrables images de pierre observant cette humanité débordante, apôtres, saints, martyrs, vierges, sages ou folles, rois de France depuis Childebert jusqu'à Philippe Auguste, plus grands et majestueux que nature, en leur galerie dominant le parvis.
Merci Ignacio Catalan pour une lecture d'un extrait de votre dernier roman « Dans la lumière d'Isiatis » paru aux éditions de l'Armançon. On vous remercie de nous avoir accompagnés pour cette soirée hautement médiévale, érudite, passionnée et passionnante. Quels sont vos projets dans les mois à venir ?
Eh bien, écoutez, c'est à mon éditeur qu'il faudrait le demander, parce qu'il doit avoir dans ses cartons quelques livres, et notamment un où je parle de musique, mais en termes contemporains. Je suis un grand amateur de Beethoven et j'ai essayé, je reste prudent, j'ai essayé d'écrire sur Beethoven.
Voilà. En tout cas, pour l'heure, on ne peut qu'encourager nos auditrices et auditeurs à s'engager sur les routes dites de pèlerinage aux côtés d'Aubert et de Loïs pour découvrir cette culture médiévale des trouvères, cette galanterie, cette fine amour, ce mystère des Vierges Noires et puis cette société du Moyen-Âge absolument passionnante que vous décrivez et que vous partagez avec vos lecteurs. C'est Dans la lumière d'Isiatis. Merci Ignacio Catalan d'avoir été à bord de Wagon Livre ce soir. Je voudrais aussi rappeler d'ailleurs aux éditions de l'Armançon, si vous me permettez, il y avait un livre paru il y a quelque temps, un livre de Michel Miguet qui a pour thème et pour titre « Les Templiers en Bourgogne ». C'est un livre disponible aux éditions de l'Armançon et c'est un livre effectivement très sérieux, richement illustré, beaucoup, photographie sur l'archéologie des commanderies des Templiers en Bourgogne.
Qui traite de l'architecture templière en Bourgogne.
Voilà, c'est Michel Miguet, les Templiers en Bourgogne, et bien sûr, la fiction, le roman, une histoire d'amour impossible, finalement, dans La Lumière d'Isiatis d'Ignacio Catalan, qui était notre invité. Bonsoir, Ignacio Catalan.
Merci à vous et bonsoir.
Avant de nous séparer, quelques informations culturelles dans les jours à venir. Ça se passe samedi 15 décembre prochain à partir de 17h à la ferme de la Fosse d'Yonne, c'est à Tonnerre, où aura lieu la présentation officielle du livre de Dominique Vianneau, ouvrage intitulé « Le secret du chevalier Déon ». Effectivement, cette présentation de cet essai historique ne pouvait avoir lieu que dans la cité natale du chevalier Déon. Effectivement, c'est un livre récemment paru aux éditions de Bourgogne et c'est une soirée de présentation à partir de 17h, donc organisée par la librairie Plume et Images de Tonnerre et par les éditions de Bourgogne, samedi 15 décembre prochain, 17h, à la ferme de la Fosse d'Yonne. La petite conférence est suivie d'un petit cocktail dînatoire. Je rappelle aussi que pour les fêtes, le cadeau idéal est très apprécié, c'est un livre. Alors faites vivre les libraires de votre département. N'hésitez pas à aller les voir, à feuilleter les livres, à demander conseil et à trouver le livre que vous pourrez glisser sous le sapin de Noël qui saura faire plaisir. Eh bien, la semaine prochaine, mercredi 19 décembre, à bord de Wagon Livre à partir de 21h, nous aurons l'occasion de parler d'un livre qui pourrait être, à mon avis, un excellent cadeau de Noël. Noël, c'est le moment des fêtes, c'est le moment des repas, c'est le moment de la gourmandise. Et justement, nous aurons le plaisir d'accueillir Jean-Paul Rousseau pour « Les oies du capitaine », son dernier ouvrage paru aux éditions Rhubarbe, qui est un recueil de contes gourmands. Effectivement, avec malice et gourmandise, Jean-Paul Rousseau revisite l'histoire de France côté cuisine, du bon évêque Saint-Germain-l'Auxerrois au poilu de 1917, en passant par les fils de Charlemagne, la révolution de 1789, celle de 1848, sans oublier quelques épisodes du dernier tiers du XXe siècle. C'est donc mercredi prochain, Les oies du capitaine. Ça va sentir bon dans Wagon Livre avec Jean-Paul Rousseau, mercredi prochain, 19 décembre, à partir de 21h et toujours sur Radion. Merci de nous avoir accueillis ce soir chez vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Excellente fin de soirée et bonne nuit à l'écoute de Radion. Au revoir à toutes et à tous.